mira el mundo de las artes. Dando a conocer los artistas y el arte en torno a América Latina. Sandra Fernandez vous dit bonjour. Aujourd'hui, je vous parlerai du film Belge Austral du réalisateur belge Benjamin Collot. Avec lui, j'ai eu un entretien dans les studios de Radio Panique, situé à Saint-Josse, au cœur de Bruxelles. Le film est une immersion dans le monde clos de l'équipage du bateau de pêche artisanal, l'Alfa Romeo. À l'extrême sud du Chili, le bateau parcourt le saut glacial entre les fjords autour de Punta Arenas. Il va ravitailler et alléger de leur pêche les bateaux qui partent pêcher pendant 5 mois les très appréciées araignées de mer, les centoyas. Le travail sur les bateaux est continu. La mer est dangereuse. Il y a toujours quelqu'un qui veille. Les soirées sont longues. Les langues se délient. Les sons confient leurs blessures, leurs espoirs, leurs craintes. Benjamin a construit son film autour de leur vie et les traditions des villes portuaires et ses pêcheurs. Benjamin Collot est réalisateur, chef opérateur, monteur au sein de plusieurs sociétés de production documentaire et photographe d'art. Il compose des créations sonores diffusées sur les scènes théâtrales et lors des festivals. Après Rebecca, son premier film, il réalise son 2e long métrage documentaire sur les eaux tristement célèbres de l'extrême sud du Chili, Austral.
Van pa mar adentro y son los madrugadores, allá van los pescadores, mar adentro a echar la red. Van pa mar adentro y son los madrugadores, allá van los pescadores, mar adentro a echar la red. Se perdieron a lo lejos, todavía no aclaraba, un rayo de sol travieso que bajó de la montaña, los buscó por la caleta.
Yo me voy a morir en el mar. Yo siempre he dicho, a mí me gustaría morir en el mar. Porque soy un hombre de mar. Me crecí en el mar y me gustaría morir en el mar. Pero que no me encuentre en mi cuerpo. Nunca he buscado el peligro. Pero hay oportunidades que se dan, ¿no?
Austral, ça parle du dépassement de soi, du dépassement de ses peurs au travers de 3 personnages qui luttent contre une mer hostile. Ça se passe à l'extrême sud du Chili, tout près du Cap Horn, là où il y a beaucoup de tempêtes. Et c'est un film qui tourne autour d'un personnage principal qui s'appelle Guillermo, qui lui est partagé entre son addiction morbide de la mer, parce qu'il veut mourir en mer pour une bonne raison qu'on verra dans le film, et en même temps rejoindre sa famille, quitter la mer pour se rapprocher de sa famille, dont un fils qu'il a abandonné à 2000 km de là. Et 2 personnages gravitent autour de lui, qui sont Milton, qui lui a déjà ses enfants et qui part en mer régulièrement pendant 4-5 mois et qui lui cherche à se faire un nom dans la mer. Et Andrés, le 2e personnage, qui cherche à quitter la mer difficilement pour rejoindre une femme qu'il vient de rencontrer. Donc pourquoi l'envie de parler de la pêche au Chili? En fait, c'est né d'abord d'un besoin d'expression filmique. Qui aborde des thèmes comme l'étouffement, la peur de l'asphyxie, qui sont liés à mes cauchemars d'enfant, en fait. Parce que j'ai failli mourir à la naissance et j'avais besoin d'exprimer ça. Et c'est un thème aussi qui m'obsède. C'est une obsession de dépassement des peurs. C'est-à-dire chaque fois aller un step plus loin, ne pas être limité par la peur elle-même. Et j'ai parlé un peu de tout ça à un ami chilien. Et lui m'a invité à lire Francisco Coloane. Et quand j'ai lu ça, effectivement, je me suis dit, waouh, c'est un monde qui a disparu, qui porte tous ces récits d'aventure, tous ces récits de dépassement de soi, et dans le cadre austral, de dépassement de peur très interne, de blessures familiales, par exemple, pour Guillermo. Et du coup, en fait, je suis allé voir si c'était toujours comme ça actuellement, et j'ai parcouru le Chili jusqu'à trouver des personnages qui me correspondaient le plus, enfin qui faisaient le plus miroir avec ce que je voulais exprimer. Et après avoir parcouru le Chili à travers, je fais la version courte, hein, mais 2 000-3 000 kilomètres par la mer, par la terre, je suis tombé sur l'équipe de Guillermo Andrés et à l'époque Claudio. Et j'ai vu que ce personnage-là allait clairement être porteur d'une histoire à raconter. Après ça, ils se sont séparés. Et donc, je me suis dit, il y a tout qui s'écroule. Le film s'est écroulé 10 fois parce que tout est extrêmement instable. Et en y retournant, il y a eu moyen de les réunir par le lien qu'ils avaient entre eux. Et justement, par les réponses qu'ils se donnaient entre eux aussi dans leur parcours et dans leur combat personnel.
La Marta me dijo, no, me dijo. Y no era el último año. Digo ya. Dame 2 años más. Y yo a mí el mar me llama. Entonces yo tengo 2 familias. Mi familia en el mar y mi familia en la casa.
C'était la volonté que le 4e personnage principal soit la mer. Surtout par rapport à ce qu'elle faisait à Guillermo, parce qu'elle l'attire clairement de manière morbide. Et dans le cas de tous les personnages, il y avait vraiment une puissance, une présence, même encore plus dans le scénario original qu'elle transmettait aux personnages. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment un appel de la mer ou le fait qu'elle puisse les retenir aussi. Pour que, dans le cas d'Andrés qui veut quitter la mer, on sent qu'elle veut le retenir, qu'elle ne le laisse pas partir. Donc il y a toute une histoire comme ça qui s'est développée. Et c'est une des raisons pour laquelle aussi, à un moment donné, il y a une plongée dans la mer, pour aller voir non seulement tous les hommes qu'elle a pris, mais aussi sa puissance interne. Je parlerais plutôt d'une addiction morbide, comme on peut l'avoir à la cigarette ou à quelque chose comme ça. Est-ce que c'est une maladie incurable? Ben, pas incurable, parce qu'il y en a qui arrivent à en sortir, mais en tout cas, une addiction énorme, ça c'est sûr. Aussi parce que, finalement, quand ils luttent contre les vagues ou contre une nature tellement hostile, pour moi, ils luttent surtout contre eux-mêmes et contre leur peur beaucoup plus interne. Guillermo, par exemple, il a plus peur de la vie que de la mort. Il a plus peur de l'ennui sur Terre, il a plus peur de tout ce qu'il a connu sur Terre et qui pourrait le ramener à la réalité qu'à la mort en mer. Tout ça joue avec l'addiction.
Ya mire, que se acerquen a alguna base por ahí, que tengo una llamada para Cabo Suárez, que necesitamos hablar urgente con el cambio. Dame la araña, ¿no? La araña.
Solo esta mierda.
Parce que j'adore filmer et aussi parce que ce sont des mini-structures, c'est des bateaux, il y a 1-2 places, donc j'aurais pas eu l'espace pour une grosse équipe. Mais la raison principale est que, vu le temps et vu l'envie, comme c'était une manière d'exprimer des choses, j'avais l'impression que c'était beaucoup plus simple de le faire directement par moi-même. Donc en tout, j'ai tourné plus ou moins 7 mois en parties séparées, aussi le temps d'avoir le budget pour le film, etc., ce qui a retardé les choses. Et ça demandait beaucoup d'organisation sur place, surtout du fait qu'ils n'étaient plus sur le même bateau, donc ça, il a fallu le réorganiser aussi, recréer des liens, aller voir les patrons de pêche. Mais globalement, vu le lien d'amitié qui s'est créé avec le temps, les choses se sont mises en place petit à petit. Il y avait 2 raisons. La raison, c'était porter l'histoire de manière un peu plus romanesque aussi. qui rejoint la deuxième raison, qui en couleur, tout me semblait trop réel et trop moderne. Et je voulais justement me rallier à quelque chose d'intemporel et d'un passé révolu, mais qui est encore présent là maintenant. C'est vraiment ça qui m'a amené vers le noir et blanc. À la base aussi, j'avais commencé par un reportage photo avec des photos en noir et blanc. Et je me suis dit, non, en couleur, je ne vois pas autrement qu'en noir et blanc. En fait.
A veces uno dice cosas que no puede hacer. Hice un hombre de mar. Como muchos de mis amigos que ya muerto en el mar.
Herno, sanco, herno, sanco.
C'était un extrait de la bande originale d'annonce du BRIF. Bruxelles International Film Festival 2022, où le film Austral a gagné dans la section National Competition le Grand Prix et le B-Montage Editing Award.
Comment tu as été amené à faire ces films? Et quelle était la motivation et comment tu as trouvé les personnes pour réaliser les films que tu avais un petit peu peut-être déjà...
En tête, mm-hmm. Oui, tout à fait. C'est né d'une conversation avec un ami chilien. Je voulais retourner autour des thèmes qui me touchent personnellement, donc mm-hmm. à savoir l'isolement, la possibilité de mort par asphyxie. Et je cherchais quelque chose de plus, donc toujours dans l'idée de... du dépassement de soi, du dépassement de ses peurs. Quand il y a une peur, on y va, on y fait face et on voit comment pouvoir la dépasser. Et donc, dans cette idée-là, j'en ai parlé à un ami chilien. À la base, je cherchais un sous-marin. Voilà. J'avais le fantasme dans le sous-marin en me disant, tiens, quand on part des mois en mer sans voir la lumière du soleil, à quel moment l'esprit humain peut rompre, quoi. J'imaginais de suivre quelqu'un qui partait pour la première fois, par exemple, dans cette expérience sous-maritime, et de voir s'il y avait un moment donné où on craquait, ou tout simplement ce qu'on pouvait ressentir là-dedans. Mais les sous-marins, en me renseignant un petit peu, étaient un peu trop informatisés, un peu trop propres, un peu trop aseptisés. Et lui m'a raconté toute l'histoire de l'extrême sud du Chili. C'était des histoires légendaires, des histoires extraordinaires, des histoires qu'on retrouve dans les livres de Francisco Coloane. Et je me suis dit, je vais aller voir sur place ce qu'il en est. Et du coup, je suis parti en repérage, puis Valparaíso, et je suis redescendu petit à petit jusqu'à Puerto Natales. Et là, sur le chemin de Puerto Natales, j'ai rencontré un jeune auquel j'ai expliqué le projet, ce que je cherchais, quoi. Donc vraiment faire un travail sur la mer, dans des conditions dures, donc contre une nature très hostile, et trouver des hommes qui se dépassent eux-mêmes, quoi. En luttant contre une nature féroce, on lutte avant tout contre nous-mêmes et aller chercher ce qu'il y avait derrière. Et pour faire l'histoire courte, là, je me suis retrouvé, donc il m'a invité à dormir chez lui. Puis juste à côté, il y avait un patron qui avait une petite embarcation. Voilà. Je lui ai parlé du projet et il m'a dit « Ok, oui, ça m'intéresse, tout l'univers et toute la poésie que tu cherches dans ces histoires légendaires. Tu pourras embarquer sur le bateau si le capitaine est d'accord. » Et je sais que j'étais à une plus ou moins une semaine de mon billet de retour qui était à Ushuaïa. Et là, la nuit, je croise Guillermo dans une camionnette qui me dit « Oui, c'est bon, le patron a dit que tu pouvais, donc pour moi c'est bon aussi. » Mais déjà très râleur, il voyait un gringo arriver, il n'avait pas tellement envie de m'embarquer. Alors je suis monté dans la camionnette et je lui demandais un petit peu les durées du trajet. Et il me dit « Écoute, ça on ne sait jamais dire en mer, mais soit tu viens, soit tu viens pas, mais tu te décides maintenant. » Voilà. J'ai dit « Oui, je viens. » Et alors, il m'a débarqué sur l'Alfa Romeo, le bateau qu'on voit dans le film. Il m'a laissé tout seul sur le bateau de la nuit. Et c'est ce qui a donné les images de début du film, justement.
Herno, sanco, herno, sanco.
Et là, on est parti quelques jours en mer. On a dû revenir parce qu'il y a eu, un malade, quelqu'un qui avait des pierres aux reins. Donc, on a dû faire demi-tour une fois qu'on avait vraiment quitté les eaux, qu'on était dans la nature sauvage. Et ces jours ont été extraordinaires. J'ai mesuré la chance que j'avais d'être tombé vraiment sur des personnages qui m'intéressaient. Il y avait déjà Guillermo, il y avait déjà Andrés. Il y en avait un troisième, mais qui n'a pas suivi le film par après. Et j'ai commencé à écrire. Et quand je suis rentré ici, j'ai rassemblé tout ce que j'avais comme écriture, comme un puzzle, pour faire un scénario, comme on fait en fiction, donc en 5 actes, et séparer les scènes, voir tout ce que j'avais, pour y retourner. Et quand j'ai voulu y retourner en deuxième repérage en 2016, j'ai appris que l'équipe se séparait. Et je me dis, zut, c'est pas possible, alors je vais avoir du mal. Et du coup, j'ai recommencé un repérage, là, depuis Chiloé, là, par la mer, en sautant de bateau de pêcheur en pêcheur. J'étais coincé sur une île, mais c'est l'armée qui m'a redescendu. J'avais trouvé presque une équipe, justement à ce moment-là. Donc là, j'étais arrivé quasiment à Punta Arenas. Il y a Guillermo qui m'écrit en me disant « Hey, je suis revenu de mer, viens, qu'est-ce que tu fais ?» Et je dis bah, « Écoute, je cherche une autre équipe. » Il dit « Mais non, viens à la maison, on va boire, on va discuter, on va partager, comme il dit en espagnol. Bah, » Effectivement, on a passé toute la nuit à discuter. Et il m'a dit « Mais non, écoute, c'est bon, on va la réunir, l'équipe. On va pouvoir repartir en bateau ensemble dans quelques mois. » Et en fait, là, je me suis rendu compte que j'avais déjà trouvé, dès le début, ce qui me faisait le plus miroir, ce qui me répondait le plus, que c'est ça important aussi, quand on fait un casting comme ça, d'une certaine longueur, c'est de trouver des personnes dans lesquelles on peut se refléter pour qu'on puisse grandir ensemble, mais aussi qu'on puisse exprimer l'histoire. Et donc voilà, l'aventure a commencé comme ça. Ça a été beaucoup plus compliqué que prévu de réunir l'équipe, évidemment. Mais c'était parti. Là, j'étais convaincu que c'était vraiment ça que je voulais faire avec eux, quoi.
C'est bien, parce que finalement, dans les films, on voit une continuité. Si tu veux, première année, deuxième année, troisième année, on voit les personnages et on se rend pas compte derrière. Tu as eu la recherche de ton équipe, tout ça, finalement. Mm-hmm. Heureusement que l'équipe s'est ressoudée.
Oui.
Pampamar adentro y son los madrugadores, allá van los pescadores para adentro a echar la red. Son buenas las esperanzas, la marea está baja, se pueden echar las redes, para todo les alcanza, pa' la choza, pa' la barca.
Ta propre motivation est sur la peur de la mort. L'équipage, même le capitaine en parle. Mm-hmm. Peur et qu'ils l'ont vécu, la mort de quelqu'un de cher. Ça les sente, on peut dire, parce qu'ils n'ont pas retrouvé les corps non plus.
Mm-hmm. Mais en fait, c'est ça, dans Austral, c'est plus la peur de la mort. Donc je m'axe vraiment sur le dépassement de ses peurs. Et les peurs de Guillermo, c'est quoi? Sont des peurs de dépassement, de blessures familiales, parce qu'il n'a jamais désiré cette mais la mort de cet être cher qu'il a eu, et tout ce qui tourne autour de son fils, tout ce qui tourne autour de ce que lui n'a pas pu soigner. Donc en gros, moi je dirais que Guillermo, il a beaucoup plus peur de la vie que de la mort. Tout ça, quand ils sont en mer, il y a une sorte d'adrénaline, il y a vraiment un défi. On va défier les éléments, on va prendre des risques. D'ailleurs, en pleine tempête, on est tous un peu dans le même état. Ça, c'est pas de la peur qu'il y a, c'est plutôt de l'excitation. Je pense que c'est quelque chose qui les grise aussi. Ils aiment ça, ils aiment la mer, ils aiment les moments de calme, mais aussi les moments de tempête, les moments plus dynamiques. Et quand ils reviennent sur terre, il y a tout ce qui est pas réglé qui revient.
C'est bien reflété, en tout cas dans les films, aussi de voir des paysages très calmes, mais dans ces moments aussi, les gens, c'est des moments très riches. Tu montres dans l'image, tout est calme, mais ils sont prêts à parler de ces propres attentes.
C'est un travail dur qui peut arriver n'importe quand. Mm-hmm. C'est instable, c'est dur, c'est dangereux, ça c'est très clair. Mais il y a tout le côté magnifique, il y a tout le côté poétique, il y a des instants d'ennui, il y a des instants de calme, il y a des instants forts. Globalement, je comprends très bien cet amour de la mer, quoi, je l'ai ressenti aussi. Et après, les difficultés sont partagées. Je me suis axé sur Guillermo qui avait ses blessures familiales, et Milton et Andrés qui seraient ses pendants, un peu comme le yin et le yang. Milton qui voudrait quitter la pêche pour s'occuper de ses enfants, et Andrés qui à la base, lui, était l'orphelin, qui, sa seule famille, c'était la mère, et bon, qui finalement rencontre une femme. Mais ce sont des reflets de Guillermo, en fait. Parce que je sais que la première fois que je l'ai rencontré, il l'a dit. Il l'a dit, j'essaie de quitter la mer, j'essaie de quitter la possibilité de mourir en mer comme ça et de me rapprocher de ma famille. La mer m'appelle, je ne peux pas faire autrement. C'est frénétique. Enfin, lui, il va plus loin, parce qu'il dit carrément qu'il voudrait laisser son corps en mer. Il voudrait laisser son corps et qu'on ne le retrouve pas. Il voudrait vraiment disparaître.
Au contraire, sa femme l'exprime qu'elle voudrait avoir quelque chose de lui. Pour elle, c'est très important de pouvoir aller se recueillir quelque part où il y a une trace matérielle de la personne.
Et Martha est très touchante pour ça. Martha, c'est quelque part le héros du film, hein, qui a, par sa patience, par son non-dit, puis tout le moment où justement elle lâche tout ce qui était resté.
J'ai vu des origines indigènes. Mapuche, c'est une forteresse, je dirais. Elle est très, très ancrée.
Por la noche del invierno, caramba, déjela puerta sin tranca, caramba, déjela puerta sin tranca, caramba, si quería hacerme un guiño, caramba, que es tu negra la que canta, caramba, por la noche del invierno, por la noche los montes se ven clarito, porque viene alumbrando el lucerito, ay morena, por la noche los montes se ven clarito, ay morena, el lucerito sí ha dos razones, vienen palpitando los corazones, ay morena, anda y a dos razones los corazones. Caramba, por la noche del invierno, deje la puerta sin tranca,
porque viene alumbrando.
Caramba, deje la puerta sin tranca.
Nous avons écouté la balade Par la nuit de l'hiver du groupe chilien Villa Mili et auparavant deux extraits de la chanson Pas mar adentro, vers la mer, à l'intérieur, de Pedro Mesone, aussi un chanteur chilien. J'avais l'impression que c'était de la pêche artisanale.
C'est ça.
Oui, mais ils sont reliés à un autre, tu dis, il y a quelqu'un qui vient reprendre les fruits de la pêche.
Mais en fait, il y a deux équipes globalement. Il y a une équipe qui part pêcher pendant 5 mois, qui conserve les centellas dans l'eau, voilà. Et une autre équipe qui, tous les 10 jours, va ramasser les centellas et en même temps, ils en profitent pour donner des vivres, tout ce dont ils auraient besoin sur place, quoi, quand, oui, quand, quand oui, ceux oui, qui sont isolés oui, restent, oui. restent dans leur zone. Voilà. Tous les deux de la pêche artisanale, parce que oui, voilà, oui, oui. après ça, ils ramènent ça au port, et là, il y a des déchargements de Santoya, et là, ça part, je ne sais pas où, j'ai pas su.
C'est artisanal la façon dont ils le font, mais comment ils coulent, ça, ça doit être certainement ça, je ne sais plus pas. Industriel.
J'imagine que... ça, parce que le, celui à qui appartient le bateau le vend à la pesquera. Donc c'est,
ah, la c'est, pesquera,
c'est,
ok.
Le, donc c'est ce, oui, c'est ça, c'est ceux qui gèrent oui. le tout. Donc là, oui, j'imagine, le, c'est, là, oui, c'est, oui, oui. j'imagine que c'est une grosse machine, là, parce oui, que je oui, sais oui, que... Oui. Dans les périodes les plus creuses, quand ils pêchent l'oursin, comme on voit de la plongée à un moment donné dans le film, je sais que ça, y en a qui partent au Japon, que la vente est industrielle, quoi, mais la pêche est artisanale.
Oui. Oui. Tu as eu un petit peu de vu les protestations au Chili.
Eh ben non, parce que dans le sud du Chili, oui, il y en avait pas, oui, oui, il y en avait quasiment vrai. Pas. C'était plus à Santiago. Plus
oui. Surtout Punta Arenas, c'est un lieu assez spécial aussi.
J'en ai vu une. Mm-hmm. Mais juste croisé quoi, avant qu'on parte en mer, donc je ne l'ai pas vraiment vu.
J'ai vu les films et je me suis rendu, je l'ai vu comme ça, hein, comme l'histoire, un petit peu l'histoire de vie de ces hommes qui sont tout le temps en mer et qui bah, sont exposés au climat qui est du moment et voilà, qui ne savent pas quand ils vont aller, quand ils vont revenir, qu'est-ce qu'ils vont... recueillir des fruits de la pêche non plus, que les prix peut-être sont pas tout à fait...
C'est, oui, c'est variable. Hein.
Oui, c'est variable, variable. Oui. Oui. Oui, j'étais étonnée d'entendre ce qu'ils disaient qu'on les payait 200 pesos et...
quand Guillermo en parle, il disait 200 pesos le kilo, c'est ça hein. Je crois qu'il parlait de Santoya. Oui.
Santoya. Oui. Ah, c'est le kilo. Oui, je croyais que c'était la pièce. Oui, ok, oui. ok. Et moi, j'ai déjà payé, mais peut-être en 2016, la pièce à 8000 pesos et même oui. dans les Angelmont, à 1000 kilomètres.
Oui, mais je vois bien. Oui.
Et alors, j'étais étonnée. Je me dis, à Santiago, ça vaut 30000 pesos. Quoi. Si ils sont payés... 200 euros le kilo, c'est...
Non, c'est pas la pièce. Mais après, eux, ils ont aussi un salaire fixe, mais c'est sûr que c'est pas...
Voilà. Ah, ils ont quand même quelque
oui.
chose.
Bah, en tant que capitaine, ça va mieux. Ils peuvent aller jusqu'à 1 million par mois. Ce qui fait plus ou moins 1000 euros, je crois. Hein, je... Pour les autres, non. Oui, oui la tribulation, non. Oui, ah, oui c'est oui, ça. Oui, oui.
Je voulais te demander si tu as des projets en tête.
Bon, il y a déjà un projet simple qui n'est pas un projet de film, mais qui serait de faire une tournée avec eux pour qu'ils aient aussi leur part de lumière, pour qu'ils puissent voir le film dans de bonnes conditions, de faire une tournée au Chili du film avec eux. Et dans les autres films, là, il y a une coréalisation qui est en vue sur les cargos aériens. Sur ce métier-là, là pour l'instant on rencontre plusieurs pilotes en partant de la Belgique, mais c'est ouvert au monde entier.
Est-ce qu'il y a des possibilités de revoir les films dans un autre endroit ou est-ce que c'est
oui.
Il est dans une programmation ailleurs.
Alors, il était beaucoup programmé cet hiver, mais il reste encore le 30 mars au cinéma Flagey. Le 19 avril au ciné Surcourt à Skerbeck et le 21 avril au Piano Fabrique.
Donc tu connais un peu l'espagnol évidemment parce que tu as dû communiquer là-bas avec les gens en espagnol. Tu peux dire un petit coucou aux auditeurs de Radio Campus Latino.
Comment dire ça? Más que hola, me encantaría de encontrarse. A la proyección.
Bueno, ha sido un placer conversar contigo.
También.
Y que esperamos vernos en el día de la proyección. ¿Vas a estar?
Sí, claro. Voy a estar. Sí.
Ya está. Muy bien. Je te souhaite une très bonne suite pour les différents projets en espérant que Chili, on fasse vraiment le tour avec les...
Oui, j'espère que ça va bien se mettre en place.
Oui, en tout cas, merci beaucoup.
Merci. Merci
à vous. Et à bientôt alors.
À bientôt.
L'ASBL à Babor organise le 21 avril à 18h30
dans les locaux du Centre culturel Piano Fabrique la projection du film Austral. L'invitation est à 18h30. Le prix de la soirée est de 15 euros. C'est pour voir le film et partager un goûter avant le film. Donc, soyez à l'heure. Gira el mundo de las artes. Dando a conocer los artistas y el arte en torno a América Latina.